Votre grand journal du soir sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et les grandes voix, on est vendredi soir, vous le savez, jusqu'à 20h nous allons débattre avec les grandes voix. Ce soir, Catherine Ney qui est en studio avec nous. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Bienvenue. Gérard Carrérou qui découvre le nouveau studio.
Oui, c'est ma première surprise party ici.
Il voilà. Vous plaît, ça voilà. Va
c'est très beau, oui.
C'est pas mal, hein. Robert Namias qui est avec nous.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous les trois. J'espère que vous allez bien, nous avons beaucoup d'actualités évidemment et pas mal de sujets de débat. Nous allons commencer avec cet attentat mardi soir à Strasbourg. En ce moment même, le président de la République est place Kléber à Strasbourg en train de saluer les forces de l'ordre au chevet de la ville de Strasbourg, le président de la République. Le terrorisme a encore frappé. Entre mine de rien, on va reparler des gilets jaunes un peu plus tard, mais avec la séquence autour des violences et des casseurs, Catherine, et cette traque pendant 48 heures d'un terroriste, les premiers pas de Christophe Castaner, on a pu les observer en tant que ministre de l'Intérieur.
À la fois, je dirais qu'il a de la chance d'une certaine manière, parce qu'il est tout de suite, il a tout de suite une actualité qui est très, quand même, où tous les projecteurs sont sur lui. Je veux dire, peut-être que lui aurait aimé faire un démarrage un peu moins violent. Les dernières manifs à Paris ont été, même s'il y a eu beaucoup de déprédations, mais enfin, ce sont d'une façon policière pas mal passées, et que là, le terroriste a été tué. Bon, il peut dire qu'il peut féliciter la police, et puis tous ceux qui l'approchent disent que il entre dans le costume, quoi. Voilà. Oui, alors que c'était.
C'était pas évident.
L'autre jour, il est venu devant la commission des lois et Philippe Bas, qui n'est pas un courtisan et qui du Parti républicain, a trouvé qu'il tenait et qu'il avait, il entrait vraiment dans son rôle.
Gérard.
Au lendemain de la première manifestation, la grande manifestation, celle qui s'est assez mal passée, j'ai dit, moi, personnellement, j'ai dit beaucoup de choses désagréables à l'égard de Castaner. Enfin, j'ai même dit quasiment, il est vraiment nul, ce ministre. Donc, je suis d'autant plus à l'aise, ayant dit ça, pour constater qu'il a effectivement fait des progrès extrêmement rapides, aussi bien en ce qui concerne. Alors, je ne parle pas pour le coup de l'attentat, parce que dans l'affaire de l'attentat, le ministre de l'Intérieur, c'est les services, c'est les policiers sur le terrain, etc. Le rôle du ministre est moins important dans une affaire comme celle-là qu'il n'a été, par contre, dans l'affaire de la gestion des gilets jaunes. Et là, j'ai trouvé qu'il avait finalement, il a appris le métier très rapidement et que maintenant, il s'est hissé au niveau plutôt des bons ministres de l'Intérieur qu'on a connus dans les dernières années. Et je ne mets pas forcément le dernier avant lui dans les bons, mais il y en a eu quelques-uns, par exemple Valls ou Sarkozy, qui ont été des bons ministres de l'Intérieur, sans remonter à Marcellin ou à d'autres. Je pense qu'il a gagné effectivement au feu ses galons de ministre de l'Intérieur. C'était pas acquis d'avance.
Robert.
Oui, c'est un peu compliqué parce qu'en réalité, c'est un politique et les ministres de l'Intérieur sont des politiques. On les appelle les premiers flics ou le premier flic de France. En réalité, ils n'ont rien de flic et bien souvent, ils ne l'ont jamais été, ni de près, ni de loin. Finalement, c'est une affaire plutôt de posture, ministre de l'Intérieur. Parce que c'est pas lui qui met en place des stratégies militaires de maintien de l'ordre. Il y connaît rien, c'est très compliqué. Ne serait-ce que mouvoir les forces de l'ordre, ça ne passe pas par lui. Ça devrait passer par le préfet de police, par les chefs de la police, etc. Ce qui se fait. Par contre, la posture, qui consiste à la fois à afficher de la fermeté politique, de la fermeté en matière d'ordre, c'est vrai que la crédibilité, elle tient à peu de choses. Et c'est vrai que Colomb n'en avait pas beaucoup, que d'autres n'en ont pas eu énormément, que Sarkozy, alors qu'en fait en maintien de l'ordre, il n'y connaissait pas plus que les autres. Mais Sarkozy, tout de suite, on a dit, il a le costume ministre de l'Intérieur
parce qu'il avait
la posture. Oui. Valls, il avait la posture.
Absolument.
Eh bien,
c'est
Castaner,
pour ça que j'ai cité ces deux-là.
Tu as tout à fait raison. Et Castaner est en train de prendre cette crédibilité, absolument, d'acquérir cette crédibilité, qui tout à la fois d'ailleurs est presque dans la gestuelle physique. Car encore une fois, le fait que ça se passe bien ou pas bien sur le terrain, ça ne lui appartient pas vraiment.
C'est vrai. Le seul bémol que je mettrais quand même sur son parcours, donc, que j'ai salué, le bémol, c'est quand même un certain nombre de mots malheureux au départ, quand il a essayé, alors là, politiquement, de faire quelque part une diversion pour essayer de lancer l'opinion sur la piste des casseurs d'extrême droite, etc., des militants. Or, tout ce qui a été démontré depuis, l'analyse précise de tous ceux qui ont été arrêtés par les manifs, les violents, etc., a montré qu'il y avait au moins largement autant de casseurs et de violents venant de l'ultra-gauche que de l'extrême droite.
Alors qu'on et était... de gilets jaunes d'ailleurs qui n'étaient ni ultra-gauche ni ultra-droite.
Absolument. Mais il avait lancé vraiment sur la piste des groupes d'extrême droite, etc. Et
dans le domaine de la posture, d'ailleurs, il a changé de phrasé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il avait depuis toujours, en tant qu'homme politique, une espèce de phrasé avec un débit extrêmement rapide, on ne comprenait pas la moitié des mots, il avait encore un peu son accent chantant, etc. Et là, en quelques jours, affirmant une autorité, il a un nouveau phrasé qui n'a plus aucun rapport, qui est sans doute le phrasé du ministre de l'Intérieur.
Même au début du conflit des Gilets jaunes, il disait les Gilets jaunes, et maintenant il dit les Gilets jaunes.
19h28 sur Europe 1. Voilà pour Christophe Castaner, on lui a refait un costume, mais plutôt pas mal.
On lui a taillé sur à
mesure,
sa taille.
Sur mesure. 19h29, vous êtes sur Europe 1. On va revenir sur le fond et la question du terrorisme qui a frappé à nouveau à Strasbourg dans un instant, avec les grandes voix. Vous restez bien sur Europe 1.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et le vendredi soir, vous écoutez également les grandes voix d'Europe 1. Catherine Ney, Robert Namias et Gérard Carrérou.
Gérard, la ville de Strasbourg frappée par un nouvel attentat et on a appris aujourd'hui la mort d'une quatrième victime, un journaliste italien de 28 ans. Ce terrorisme que parfois on a tendance un peu à oublier qui revient ainsi sur le devant de l'actualité.
Oui, moi j'ai été particulièrement touché, comme tous les Français, mais particulièrement parce qu'il se trouve, pendant des années, j'ai exercé des responsabilités dans un groupe de radio qui était à Strasbourg. Donc j'allais régulièrement à Strasbourg, je me baladais à Strasbourg.
Une ville que vous connaissez bien.
C'est une ville que je connais bien et j'ai appris à apprécier les habitants qui ont vraiment le caractère alsacien dans toute... mais vraiment, ce sont des gens bien. Donc j'ai été encore plus triste. Mais c'est ça qui m'a inspiré ce que je vais vous dire maintenant. Je suis convaincu qu'on est des millions en France. Je suis de ceux qui ne vont plus, qui n'acceptent plus qu'on attende tranquillement le prochain massacre. Vous avez rappelé les chiffres. On en est à 4 plus 1, on est déjà à 5 morts. Il y en aura peut-être malheureusement un ou deux de plus dans ceux qui sont grièvement blessés. Je n'accepte plus cette idée qui a été l'idée aussi bien cautionnée par la droite que par la gauche, celle qui a, quand ils ont gouverné, qu'on ne peut rien faire puisque ces gens qui font les attentats, on ne peut que éventuellement les mettre hors d'état de nuire, les tuer ou les mettre en prison, mais qu'on ne peut rien faire avant parce que la loi ne le permet pas. Alors la loi ne le permet pas, l'état de droit ne le permet pas, etc. Donc il n'y a plus qu'à attendre et on compte les morts. Moi, je ne veux pas qu'on continue. Et je connais tous les obstacles. Comme tous autour de la table, on sait ce qui est possible dans la loi, on sait ce qui est possible avec le Conseil constitutionnel. Malgré tout, j'estime qu'on n'a pas exploré toutes les solutions qui permettraient de neutraliser tout ou partie des 2000. Il y a 2000 à 4000 parmi ceux qui sont fichés. Il y en a 2 à 4000, nous dit-on. Tous les services de police et de la DGSI disent que ceux-là sont ceux qui peuvent être activés et actifs pour tuer. Je pense qu'on n'a pas exploré toutes les voies. Je demande, mais vraiment je le demande en tant que citoyen, qu'on explore toutes les voies possibles parce qu'il y a des pays où effectivement il y a des législations qui ont été plus adaptées à ce genre de terrorisme.
Robert.
Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec Gérard pour une raison simple, c'est que aller beaucoup plus loin, bah oui, on peut organiser un État que l'on appellera État policier.
Ah mais non, justement, c'est ça que je n'accepte pas.
Ah bah oui,
dès que tu dis on peut aller plus loin, on te dit vous êtes un facho, vous voulez un État totalitaire, vous voulez un État policier. Ce n'est pas vrai.
Très bien. On voit très bien ce qui se passe dans les États à régime autoritaire. Par exemple, la Russie est sans doute l'un des pays le plus libéral, comme l'on sait, qui ne connaît pas la prison préventive, comme l'on sait, les camps d'internement, comme l'on sait. Mais qui malgré tout a de très nombreux attentats et est terriblement meurtrier. C'est-à-dire que le régime autoritaire type russe n'a absolument pas éradiqué le risque d'attentat.
Je l'ai sûrement pas pris comme modèle.
C'est une caricature dans cette affaire-là. Mais qu'est-ce que tu veux proposer de plus? On a un arsenal juridique qui est déjà considérable.
Attends, il y a par exemple, il y a eu une dans le débat, il y a cette occasion, il y a eu dans le débat une proposition qui n'avait pas été faite dans les dernières occasions. Et je pense qu'il faut y réfléchir. C'est la proposition, effectivement, de recours à cette notion, si vous voulez, d'intelligence avec l'ennemi, qui a existé dans certains moments de l'histoire et dans certains pays. Intelligence avec l'ennemi, ça veut dire que des gens qui tuent ou non... Là, par exemple, on n'a pas encore l'enquête, mais on sait que le tueur a dit dans le taxi, il l'a dit au chauffeur de taxi, je le fais pour venger nos camarades de Syrie, etc. Je dis là, il y a typiquement une notion d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire avec des organisations extérieures ou nationales qui prônent le terrorisme. Donc on peut réfléchir à ça. Ne me dis pas qu'on ne peut pas. La pensée ne peut pas s'arrêter à ce qui est aujourd'hui en
Catherine.
Place.
Oui, alors jusqu'ici, le tueur en question était un condamné de droit commun qui a été condamné à plusieurs reprises, mais jusqu'ici, rien ne laissait supposer qu'il pourrait commettre ce crime. Sauf qu'aujourd'hui, où il y aura une enquête, on ne peut pas croire que c'est un radicalisé solitaire, parce que derrière un homme qui fait un crime comme ça, il y a toujours un environnement criminel, religieux, et un bout de chaîne quelque part. Et surtout que Strasbourg est quand même un des lieux d'où sont partis beaucoup de Strasbourgeois pour l'Irak, pour le djihad, la guerre en Irak. Et il y a les grands lieux de départ de djihadistes, c'est Strasbourg, Paris et Toulouse. Et donc, on pense que quand même, le garçon en question qui vient d'être tué, dont j'ai oublié un, était sûrement pas une tête pensante, mais il faisait partie d'un réseau, il pouvait pas être seul.
Et par là, vous dites qu'il y aurait peut-être... On aurait peut-être pu justement agir.
Oui, il y a sept gardes à vue, garde à vue, la famille et des amis proches déjà.
Oui, sans doute, parce que.
Les sources policières.
Oui, mais jusque là, il était recherché parce que là, au contraire, là, il était suspecté d'homicide, mais c'était d'un vol de droit commun. C'était pas un vol, c'était pas un meurtre au nom de l'islam.
19h37. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. Catherine Ney, Robert Namias, Gérard Carrérou avec nous. Le débat continue. Vous réagissez si vous le souhaitez au 39-21.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Ney, Robert Namias et Gérard Carrérou.
Le débat qui quelque part, évidemment, les deux événements ne sont pas liés, la mobilisation des Gilets jaunes et cet attentat de Strasbourg mardi soir. Mais Catherine, vous nous parliez hors antenne de la mobilisation, cette fois, des CRS mardi à Strasbourg.
Mais oui, c'est que depuis quelques années, le marché de Noël est très, très, très sécurisé par des CRS qui palpent les hommes qui entrent dans le périmètre du marché et qui font ouvrir de tous les sacs des femmes. Et cette fois-ci, et ce fameux mardi, les CRS n'étaient pas là parce qu'ils étaient occupés par... C'était le mardi noir des lycéens à Strasbourg. Tous les lycées étaient à feu et à sang, pas à sang, mais à flamme. Et donc, ils étaient occupés.
Le service de police justice. Ils étaient occupés très tôt le matin sur les lycées, mais du coup, ils avaient quitté le marché vers 18h.
Vers 18h. Et donc, s'ils avaient passé la journée au marché, en tous les cas, comme le tueur est entré en action, peut-être que celui-ci aurait été attrapé plus vite. Enfin, on fait peut-être des suppositions.
Ou neutraliser
plus vite.
Voilà. Ça pose la question de la mobilisation de nos forces de l'ordre, ce qui nous amène assez naturellement, pour le coup, sur la mobilisation de demain. Que faut-il attendre de cet acte 5, comme l'appellent les Gilets jaunes ? Forte mobilisation ou pas ? Violence ou pas ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a répondu ? C'est le débat depuis le début de la semaine, Robert Namias.
Oui, on verra bien. Là, pour le coup, nous avons intérêt à être prudents et à ne pas faire de prévision.
Je ne me risque aucun pronostic.
Non, certainement pas. En revanche, moi, ce que je crois, c'est quand même que les choses ont bougé cette semaine. Je dirais que je pense qu'il y a d'abord une majorité silencieuse, une majorité, d'ailleurs plus de 50% des Français, qui malgré des sondages qui disent tous, mais on ne sait pas, c'est approuve son gilet jaune, sont d'accord avec les manifestations, sont contre les manifestations, mais approuvent quand même le mouvement. La vérité, c'est qu'il y a une majorité silencieuse dont on ne mesure plus quel est vraiment le degré ou d'approbation ou d'exaspération à l'égard de ce mouvement. Une majorité, c'est très important, c'est la majorité du pays. Je pense qu'à côté, il y a une minorité, en effet, dont on voit bien qu'elle est à la fois et politiquement et socialement
identifié, mais qui est de plusieurs millions, qui, elle, vraiment se sent gilet jaune par ce qui est demandé, c'est-à-dire à la fois par une amélioration considérable de la vie matérielle de chacun, et puis aussi peut-être par une aspiration à un mode de fonctionnement démocratique différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, il y a quelques milliers, et ce sont ceux qu'on verra demain, parce qu'ils ne sont que quelques milliers, il y aura quelques milliers d'actifs de gilets jaunes. Alors, c'est une minorité, une extra-minorité, mais actifs et même activistes. Et c'est celle-là dont on ne sait pas ce qu'elle va faire demain. On peut imaginer d'ailleurs que pratiquement le mouvement des gilets jaunes s'exprime de manière pacifique ici et là, et qu'il n'y ait vraiment que quelques centaines de casseurs. Mais quelques centaines de casseurs, ça peut faire beaucoup, beaucoup de casse.
Oui, alors sur ce sujet-là, contrairement au sujet sur le terrorisme, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, Robert.
Je suis heureux.
Je pense que, effectivement, il y a eu un mouvement avec une large sympathie. Mais la sympathie, ça ne veut pas dire la participation, mais c'est simplement, on est plutôt pour. Il y avait les gilets jaunes, on était plutôt pour. Il y a eu, effectivement, tous les sondages, là, pour le coup, étaient dans le même sens. Il y avait probablement 3 Français sur 4 qui avaient une certaine forme de sympathie pour le mouvement. Je pense que le discours d'Emmanuel Macron, un peu tardif, ou très tardif, mais quand même a permis...
Les mesures annoncées.
Et avec le paquet cadeau, aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, de mesures sur lesquelles on va parvenir, parce qu'on en a parlé sur Europe abondamment, ce paquet de mesures a permis de, quelque part, de créer une ligne de fracture entre ces gens qui soutenaient le mouvement. Il y a ceux qui disent « Bon, ce n'est peut-être pas tout ce qu'on aurait voulu, mais c'est pas mal, il y a quand même des choses. » Ils commencent à regarder et ils vont en discuter. Ils accepteront d'en discuter pendant le grand débat national qui commencera bientôt, dans quelques jours. Et puis, il reste alors ceux qui disent, de toute façon, eux, ceux qui avaient d'autres motivations, ils avaient les motivations sociales, mais ils avaient aussi des motivations politiques, souvent des motivations politiques extrêmes. Alors là, pour le coup, ce sont des gens qui étaient radicalisés eux-mêmes politiquement, et ceux-là ne veulent pas, en aucun prix, un apaisement. Donc, demain, on verra où passe la ligne de fracture. S'il y a, comme je l'espère, et je le dis comme je l'espère, peu de gilets jaunes qui viennent à Paris, qu'ils resteront sur les ronds-points et dans leur région, qu'il y en a peu qui viennent à Paris. Moins il y en a à Paris, moins il y a de casse, parce qu'ils se présentent quelque part, ils se mêlent, ils s'infiltrent, ils se cachent derrière les casseurs, et moins il y a de gilets jaunes, moins il y aura de casseurs. C'est aussi simple que ça, et les policiers le savent très bien. On peut trouver 3 casseurs dans un groupe de 10 personnes, mais s'il y a autour 50 personnes, évidemment c'est très difficile à les trouver.
Catherine, c'est ce que nous disions lundi soir. Emmanuel Macron s'adressait à la fois aux gilets jaunes et à la fois à cette partie de la population qui soutient les gilets jaunes. Est-ce qu'il a réussi à les divisé ? Est-ce que le mouvement doit s'arrêter maintenant ?
Mais écoutez, en tous les cas, les Français ont vu qu'il ouvrait le porte-monnaie et qu'il donnait ce que les gilets jaunes avaient demandé, c'est-à-dire sur l'essence, les taxes sur le gaz, l'électricité, je veux dire, tout ce qu'ils avaient demandé au départ. Et tout ce qu'il ajoute sur le SMIC, sur les primes, c'est du bonus, quoi. Donc, c'est une...
Il faut savoir arrêter une grève, quoi.
Oui, il faut savoir. Bon,
mais il faut dire
qu'il n'est pas une grève.
L'expression n'a aucun sens. Ça fait 15 jours
qu'on a
un cocktail. Le mouvement, non
oui. On a un cocktail de colère associée qui sont tellement multiples que comment gérer tout ça et comment répondre à chacun, c'est que chacun est un cas particulier. Chacun demande une chose différente. Et au milieu des ronds-points, il y a aussi beaucoup de cas sociaux, d'anciens syndicalistes aussi. Maintenant, ce sont des gens qui se retrouvent et qui vont sûrement pas arrêter sur les ronds-points. Mais ça, c'est pas gênant, hein, sauf s'ils empêchent dans les villes les commerces d'ouvrir et de vendre à Noël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu dans certaines villes des manifestations de commerçants et même de consommateurs qui disent « halte là ». Parce que déjà, on trouve que dans les centres-villes, il y a de plus en plus de commerces qui ferment. Mais là, les gilets jaunes font la fortune d'Amazon en ce moment.
19h46. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. Le débat continue jusqu'à 20h avec les grandes voix autour de cette mobilisation demain de cet acte 5. Restez avec nous et intervenez si vous le souhaitez.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Ney, Gérard Carrérou et Robert Namias.
Robert, vous, on s'est interrompu pour une petite pause. Vous me parliez du décalage entre la mobilisation, les gilets jaunes mobilisés et la classe politique.
Oui, je crois que c'est très notable et surtout, c'est, alors là pour le coup, nouveau par rapport aux quatre samedis précédents. Quand vous regardez bien le spectre politique, alors vous me direz, les gilets jaunes crachent sur les politiques, donc ça pourrait ne pas avoir de sens. Ça en a quand même beaucoup pour la suite. Quand vous regardez le spectre politique, il n'y a plus que les insoumis, et disons-le, l'ultra-gauche et la gauche de la gauche, pour appeler à manifester. Les autres, soit n'appellent plus à manifester, disent même qu'il ne faut pas manifester pour éviter les incidents, en tous les cas à Paris, manifester sur les ronds-points, oui, mais à Paris. Et le Front National, par exemple, dit simplement, c'est leur affaire, mais nous n'appelons pas à manifester. Ils le disent carrément. C'est la première fois. Hein, jusqu'à présent, c'était l'inverse. Marine Le Pen disait, on appelle à manifester.
Et sur les Champs-Élysées, c'est elle qui leur a dit de venir
là,
sur les Champs-Élysées.
C'est absolument l'inverse. Et c'est très important parce que je pense que dans toute cette affaire, on le voit bien à travers des sondages, mais on le sent à nous-mêmes. Là, pour le coup, on n'a pas besoin des sondages. Dans toute cette affaire, on voit bien que le Front National, pour l'instant, est celui qui, politiquement, va tirer les marrons du feu. Et donc, par conséquent, cet activisme du Front National qu'on a vu les trois ou quatre premières semaines, ils ont intérêt aujourd'hui à tirer un trait dessus pour, comment dirais-je, devenir un parti comme les autres et ne pas... Bon, et ils laissent à l'ultra-gauche, qui alors là, pour le coup, a l'air de se moquer complètement, de s'insérer dans le jeu démocratique des partis parlementaires, etc. Il laisse à l'ultra-gauche la responsabilité des manifestations et des incidents qui pourraient avoir lieu.
Oui, surtout que Marine Le Pen a compris que là, il fallait lever le pied, parce que qui va payer la facture ? Eh bien, c'est son électorat, des petits artisans, des petits commerçants qui vont être très, très, très pénalisés par, les gilets jaunes.
L'évolution du Front National est très intéressante. Elle montre effectivement que les partis politiques qui ont été un peu largués dans cette affaire, comme les syndicats, il faut le dire, ils ont été même pas tout à fait largués. Ils essayent de se raccrocher aux branches. Et pour un parti, se raccrocher aux branches, c'est essayer de capter l'opinion. Et ils ont compris que l'opinion, dans sa majorité, en a assez. Même ceux qui avaient de la sympathie disent maintenant « halte au feu ». Il faut qu'on pense maintenant à Noël et surtout pas de violence nouvelle. On peut dire que l'ensemble des réformistes et des raisonnables de la gauche, du centre et de la droite sont d'accord sur cette ligne d'apaisement, quitte à reprendre éventuellement les discussions dans le grand débat. Donc il ne reste que les casseurs, ceux qui viennent pour voler. Il ne reste que les casseurs politiques, ceux qui viennent pour déstabiliser, sur un fondement anarchiste ou venant de groupuscules. Et en termes de parti politique, il ne reste que le parti de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui pratiquement continue à soutenir. Tous les autres, maintenant, ont choisi une sorte de retour à la norme démocratique. Et effectivement, je pense qu'on devrait le voir sur le terrain demain. Alors cela étant, pourquoi il restera des gilets jaunes ? Parce qu'ils ont découvert ce qu'était l'empathie. L'empathie de retrouver des copains. Tous les jours, sur les ronds-points, on retrouvait les copains. Et le premier jour, on amène des bières. Le lendemain, on dit « je vais amener un barbecue » et demain, on fera des merguez. Et ainsi de suite. Et ça, pour des gens qui sont souvent un peu seuls, qui vivent dans une large solitude, qui n'ont pas beaucoup, non pas seulement peu de moyens, mais peu d'affection autour d'eux, eh ben ils ont trouvé un copinage qui est, pour eux, sympathique. Et il y aura des réveillons de Noël, des gilets jaunes.
C'est sûr.
Robert ?
Oui, alors, moi je pense qu'effectivement, compte tenu de tout ce que l'on dit, il va y avoir un atterrissage à un moment donné de ce mouvement. Et c'est vrai que nous sommes à 13 ou 14 jours de Noël. Il y a un atterrissage qui est daté, quoi, qui est quasiment daté. Pour autant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne pourra pas dire que Macron a gagné, loin de là. D'abord parce que ce que certains gilets jaunes appellent des miettes, alors qu'ils veulent la baguette, selon des éléments de langage. Maintenant, parce que les gilets jaunes, ils sont comme tous les politiques. Maintenant, ils fabriquent leurs éléments de langage.
Il y a des politiques,
alors,
d'ailleurs, parmi eux.
Il y a des politiques, bien évidemment. Alors, vous les entendez sur tous les plateaux de radio, de télé, nous expliquer. Maintenant, les miettes, on s'en fout. Nous, on veut la baguette. Sauf que les miettes, c'est quand même 10 ou 12 milliards. Il va falloir les trouver. C'est pas simple. Donc, de ce point de vue-là, on peut pas dire que le gouvernement ait vraiment gagné. Et puis, surtout, beaucoup plus profondément, ce mouvement, dans son aspiration profonde à une autre forme de démocratie, et puis aussi faisant émerger quand même une pauvreté que l'on connaissait dans les statistiques, 9 millions de pauvres, mais dont on ne touchait pas à la réalité, qui là s'est montré tout d'un coup ultra visible, ne va pas disparaître comme par enchantement grâce au petit Jésus et à la fête de Noël. C'est-à-dire que même si ça ne reprend pas sous cette forme, cette violence, etc., je pense que tous les politiques, mais à commencer par celui qui est au pouvoir actuellement, c'est-à-dire Macron et En Marche, vont être en permanence soumis à cette pression, soit dite, soit non dite, de ce mouvement des Gilets jaunes. Ça s'appellera peut-être autrement, etc. Bon. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que tout est changé. Je pense que la politique en France, y compris jusqu'aux européennes, a complètement changé de visage.
Oui, parce qu'aux 10 millions de pauvres qu'on aide, on les aide, il y a d'ailleurs eu un plan Macron pour aider effectivement les plus pauvres. On s'est aperçu qu'à ces 10 millions de pauvres, il fallait rajouter probablement autant ou presque autant, 5 ou 6 ou 10 millions de gens qui sont juste au-dessus du niveau de pauvreté. Ils ne sont pas comptés dans les 10 millions de pauvres, mais ils sont presque pauvres, parce que ce sont des classes moyennes déclassées, des gens qui n'ont plus véritablement le statut de petites classes moyennes qu'ils avaient il y a 20 ans.
Voilà. Et quand Macron disait « on dépense un pognon de dingue », ce matin, il y avait un auditeur, un gilet jaune, qui disait « j'ai 6 enfants, quand je travaille, je gagne 1800 euros par mois, et quand je suis chômeur, j'ai 2200 euros de revenus ». Et là, c'est quand même, ça prouve que les gens, on les laisse pas tomber. Quoi.
L'équation est vite vue.
Oui. Eh ben oui,
merci
donc on ne travaille pas.
Merci à vous trois, à Catherine Ney, Robert Namias et Gérard Carrérou. Merci d'avoir participé à ce débat. On verra demain. Pas de pronostic, c'est trop risqué.